Frères et sœurs, mes bien-aimés, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 1 à 8. Et après quoi, j'enchaînerai avec les versets 13 à 16 pour écouter la lecture de la parole ce matin pour baliser la prédication, l'enseignement de ce matin à la gloire de notre Dieu. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 1 à 8, et nous enchaînerons avec les versets 13 à 15 à 16 à la gloire de notre Dieu, frères et sœurs. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Et là, nous enchaînerons avec les versets 13 à 16. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. D'ailleurs, le Seigneur, dans son amour parfait, bénir et sanctifier la lecture de la parole ce matin pour la plus parfaite édification de nos âmes, frères et sœurs. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dimanche dernier, frères et sœurs et bien-aimés, vous avez expliqué dans le cadre du sermon, dans cette série, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance, que le roi Salomon parle de la réalité du temps qui passe, ou bien considère la réalité du temps qui passe pour nous montrer, ou bien pour nous illustrer que la vie sous le soleil est éphémère. que la vie sous le soleil est vaine et futile. Parce que, du point de vue de Salomon, dans le temps, par le temps et à travers le temps, vous avais-je dit, nous sommes appelés constamment à faire face à des contrariétés ou alors à vivre des événements contraires. Des bons et des mauvais jours arrivent constamment dans la vie sous le soleil. Le bonheur et le malheur arrivent constamment sous le soleil. La joie et la tristesse, même chose. Les danses et les pleurs, la construction et la démolition, etc. L'essentiel de ce que l'Ecclésiaste voulait nous enseigner à travers le chapitre 3, c'est que nous n'avons, vous et moi, l'être humain, l'humanité, l'homme, n'a aucun contrôle ni aucune prise sur la réalité du temps qui passe, tandis que le temps, lui, semble nous dominer, nous opprimer, nous écraser à travers les contrariétés qu'il nous impose. Mais comme je vous l'avais dit, et comme l'Ecclésiaste le fait de façon récurrente dans son livre, vous avez dit que cela ne s'est pas arrêté là. L'Ecclésiaste a également attiré notre attention sur un autre aspect des choses divines, un autre aspect des choses de Dieu. C'est-à-dire que si les contrariétés dans le temps s'abattent sur nous, le temps nous écrase, nous sommes impuissants face au temps, nous ne pouvons pas retenir les bons événements, les garder avec nous pour tout le temps, les êtres que nous aimons, les êtres chers que nous aimons, il faut qu'ils déménagent, nous ne pouvons pas les garder avec nous. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu, lui, fait toutes choses bonnes en son temps. J'espère que vous vous en rappelez, frères et sœurs. Dieu, lui, fait toutes choses appropriées. Dieu, lui, fait toutes choses adéquates. Il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses parfaites. Dieu fait toutes choses équilibrées en son temps, frères et sœurs bien-aimés. Et à partir de cette réalité de notre Dieu qui fait toutes choses bonnes en tout temps, au-delà même de la vanité de la vie, je vous avais dit que nous pouvons vivre, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que gens qui ont la vie éternelle, nous pouvons vivre la vie en présence de notre Dieu souverain. Nous pouvons vivre la vie en présence de notre Dieu pourvoyeur. Nous pouvons vivre la vie, au-delà même de la vanité de la vie sous le soleil, en présence de notre Dieu juste, bon et saint, frères et sœurs. Je vous avais expliqué, rappelé que Dieu ne nous promet pas de réponse à toutes nos questions. Dieu ne nous promet pas de réponse à tous nos doutes. Toutefois, Dieu nous dit que dans les complexités, dans la vanité de la vie, dans les contrariétés de la vie, il ne nous quittera jamais. Dieu sera toujours avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours, et cela jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est en ce sens, c'est bien, c'est précisément en ce sens que Dieu est notre meilleure assurance dans ce monde où tout est vanité, frères et sœurs, mes bien-aimés. Je vous avais dit qu'avec Dieu comme pourvoyeur, au milieu des contrariétés de la vie, vous pouvez marcher là même où vous ne pouvez pas voir. Parce que la marche chrétienne est une marche par la foi, au-delà même des circonstances. Les yeux de la foi peuvent voir des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Ainsi, même quand les yeux physiques ne voient pas, vous pouvez vous appuyer sur Dieu parce que votre contact avec Dieu va au-delà de contact physique. C'est un contact spirituel, frères et sœurs, bien-aimés. Vous pouvez accepter donc ce que vous ne comprenez pas au milieu même de la vanité de la vie qui nous incite, qui nous pousse à poser des questions quant à la vie, quant au sens de la vie. Au milieu même de la vanité de la vie qui nous amène à comprendre que la vie est incompréhensible. La définition la plus simple qu'on peut eh bien, mettre en évidence pour la vie, c'est que la vie eh bien, est énigmatique, la vie est incompréhensible, la vie est faite de dessus, dessous. Mais alors, frères et sœurs, Dieu, lui, il est le maître du temps, du hasard et des circonstances. C'est-à-dire qu'au travers du pire, Dieu peut faire émerger le meilleur pour chacun de ses enfants, frères et sœurs bien-aimés. Ainsi, je vous avais dit, si vous ne comprenez pas des choses que vous voudriez comprendre aujourd'hui, si vous ne comprenez pas pourquoi une pandémie de la maladie à coronavirus d'une telle envergure s'est abattue et s'abat encore sur l'humanité, si vous ne comprenez pas pourquoi une maladie vous atteint, une épreuve vous atteint, une épreuve atteint votre famille, si vous ne comprenez pas pourquoi cette épreuve dans votre vie, dans la vie de vos proches, dans la vie de votre église, dans la vie de votre travail, de vos finances, je vous ai dit que c'est normal parce que vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas censé tout comprendre, frères et sœurs, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre non plus quant à la vanité de la vie, quant aux contrariétés de la vie. Soit vous cherchez à comprendre bagaille ça yo, eh bien, yo plus grand pas assez yo. Si vous deviez avoir les réponses à toutes vos questions, si vous deviez tout comprendre par rapport aux choses qui se déroulent, eh bien, dans la vie sous le soleil, même dans votre propre vie, vous seriez Dieu. C'est ce que je vous avais dit. Et Dieu, lui, ne serait pas Dieu, et ainsi Dieu ne servirait à rien, frères et sœurs bien-aimés. Mais je vous avais dit que cela ne s'arrête pas là. S'il ne convient pas nécessairement de tout comprendre, bien sûr, il y a des choses que Dieu va vous laisser comprendre. Dieu va vous révéler. Dieu va vous faire voir noir sur blanc, en songe ou en état d'éveil, et dans sa parole. Toutefois, je vous avais dit que ce qu'il vous faut, en réalité, essentiellement, en priorité, c'est de vivre dans la confiance à Dieu. C'est de prendre courage au milieu de la vanité de la vie, en sachant qu'il est impossible que Dieu se trompe. C'est de toujours vous rappeler que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien, parce que vous êtes de ceux qu'il aime. Ce qu'il vous faut, ce qu'il nous faut, ce qu'il me faut, c'est de nous rappeler que les contrariétés de la vie n'ont pas pu empêcher Dieu de réaliser son plan de rédemption, son plan de salut, son plan rédempteur dans l'histoire de l'humanité. Et parce que Dieu a pu réaliser son plan dans l'histoire de l'humanité, son plan annoncé et promis depuis des lustres, depuis Genèse 3, le verset 15, Dieu a annoncé la réalisation du plan de salut, la défaite de l'adversaire, de Satan le diable, celui qui rend toutes choses vaines dans la vie sur cette terre. Eh bien, je vous avais dit, si Dieu a pu faire cela, qui peut plus, qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu a pu réaliser son plan de salut dans l'histoire de l'humanité, eh bien, il est capable de réaliser son plan dans votre vie personnelle, au-delà même des contrariétés de la vie, au-delà même des obstacles liés à la vie sous le soleil, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série à partir du chapitre 4. Au chapitre 4, frères et sœurs, que voyons-nous? Nous voyons le Cohélète, le prédicateur, le maître sage, ou bien le maître. Le roi Salomon poursuit son investigation, il poursuit son examen en observant cette fois la vie sociale, ou plus précisément les rapports sociaux sous le soleil. Pas oublié, non? Il passe dans la nature. Il prend les richesses, les joies, les plaisirs de la vie. Il prend la réalité du temps qui passe et les événements qui se déroulent dans ce temps qui passe. Et aujourd'hui, il considère, il analyse, il scrute les rapports sociaux sous le soleil. Salomon y va d'une série de constats qui aboutiront tous, comme d'habitude, dans le cadre de son livre, à une seule et même conclusion, à savoir que la vie sociale sous le soleil, elle aussi, est vaine, est éphémère, est fragile, est dérisoire et futile. Si vous n'avez pas fini de prêcher, vous mettez tout retenu ça. La vie sociale, les rapports sociaux sous le soleil comportent eux aussi, les rapports, leur part de vanité. leur part de fragilité, leur part de futilité, comme toutes les autres réalités sous le soleil. Tout d'abord, au verset premier, frères et sœurs, mes bien-aimés, le maître sage, l'ecclésiaste, le Cohélète, nous fait remarquer qu'il y a de l'injustice, de l'oppression et de la méchanceté dans les rapports sociaux sous le soleil. Les hommes exercent l'oppression et l'injustice contre leurs semblables, là même où ils sont censés pratiquer la bonté, la justice, c'est-à-dire dans les tribunaux et les gouvernements. L'Ecclésiaste attire notre attention sur le fait que sous le soleil, dans ce bas monde rempli de péchés et d'iniquités, je vous ai déjà défini qu'est-ce que ça veut dire sous le soleil, les forts s'enrichissent au détriment des faibles. Le Cohélète dit au verset premier, nous l'avons lu ensemble, j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Au temps de l'Ecclésiaste, frères et sœurs, mes bien-aimés, les nantis, les potentats, les grands de ce monde ou du monde de son temps opprimaient leur peuple de manière exagérée. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les écrits des saints prophètes, frères et sœurs, nous voyons souvent fois des dénonciations de situations d'injustice sociale et d'exploitation sociale. Les plus nantis, au temps de l'Ecclésiaste, avant et après lui, dépossédaient les plus faibles de leurs possessions, leurs terres, leurs maisons, leurs biens, avec la complicité des juges qui siégeaient dans les tribunaux. Il y avait, du temps de l'Ecclésiaste, des maîtres qui exploitaient leurs esclaves et des usuriers qui s'enrichissaient illicitement sur le dos des gens défavorisés. Dans le monde d'aujourd'hui, la situation semble avoir changé, mais il reste du chemin à parcourir en ce sens. Les gouvernements des régimes totalitaires dilapident les fonds publics au détriment des intérêts de leur population qui, elle, s'enfonce chaque jour davantage dans la pauvreté et la misère. Vous connaissez l'histoire, vous écoutez les nouvelles comme moi. Dans certains pays du monde, la justice se vend au plus offrant. Des salariés sont souvent exploités par leurs patrons. On dirait même que ceux qui travaillent plus gagnent moins. Autant dire que l'Ecclésiaste a raison de parler de la vie sous le soleil comme une vie d'exploitation des plus forts, des plus faibles par les plus forts. Une minorité, dit-on dans les journaux économiques et financiers, une minorité détient la majorité des richesses mondiales. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont riches ont exploité d'autres qui sont pauvres, mais nous connaissons la réalité de l'organisation du travail aujourd'hui. Ce qui est plus scandaleux aux yeux de Cohélète, c'est qu'il n'y a personne pour secourir les opprimés. Autrement dit, les opprimés sont exploités dans l'indifférence générale. Il y a des pays dans le monde où, quand les opprimés sont exploités, mais il y a un état de droit, l'État intervient pour réguler les choses, les rapports sociaux et faire diminuer, autant que faire se peut, les injustices, les oppressions et les exploitations. Mais il y a des pays où l'État ne joue pas son rôle d'arbitre, son rôle de régulateur, ce qui fait que la situation est très grave. Mais c'est partout sous le soleil, il y a de l'injustice, il y a de l'exploitation, il y a de l'oppression, frères et sœurs. Le pouvoir sous le soleil est du côté des oppresseurs et donc les opprimés n'ont personne pour se défendre. L'Ecclésiaste, frères et sœurs bien-aimés, est troublé par cette situation et il en fait un cri du cœur quand il dit au verset 1D, Ils sont en butte, en parlant des opprimés, ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Ici, console ne veut pas simplement dire leur donner une parole d'encouragement, une petite tape au dos, leur passer la main dessus. Ça va plus loin que ça. Consoler ici, c'est secourir, c'est défendre, c'est aider, c'est prendre leur cause en délibéré. C'est Robert Burns qui a dit un jour, à cause de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, ils sont d'innombrables milliers à se lamenter. Autrement dit, Robert Burns rejoint dans ses observations l'Ecclésiaste, eh bien, qui parle du sort des opprimés sous le soleil. Exaspéré par la douleur de l'injustice et de l'oppression qui accable les sociétés sous le soleil, qui mine les rapports sociaux sous le soleil, l'Ecclésiaste, frères et sœurs, mes bien-aimés, semble affirmer qu'il vaut mieux être mort que vivant ou ne pas voir le jour que de souffrir. Ainsi, il dit au verset 2, et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Arrêtons un moment pour expliquer la parole. Est-ce qu'il faut préférer la mort à la souffrance, surtout quand on est chrétien? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas voir le jour, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas être que de souffrir l'oppression et l'injustice sous le soleil? Je ne crois pas. Et je ne crois pas non plus que c'est ce que l'Ecclésiaste veut dire à travers ce verset 2 du chapitre 4. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, frères et sœurs, le reste de l'Écriture, nous le savons, vous et moi bien, valorise la vie qui est un don précieux venant uniquement de notre Dieu créateur. Et une autre raison encore, c'est que plus loin, le Cohélète dira lui-même que la mort est pire que la vie et qu'il faut vivre la vie quand même, car Dieu a voulu la vie pour l'homme et non la mort, frères et sœurs. Ainsi, l'Ecclésiaste ne peut pas être en contradiction avec le reste de la Bible, le reste de l'Écriture, ni avec lui-même, ou alors encore moins avec lui-même. Ainsi, l'Ecclésiaste, même s'il utilise ces mots, il n'est pas en train de nous dire que la mort est meilleure à la vie, même si ce sont ces termes. Il faut interpréter si la Bible, l'Écriture, ne peut pas être en contradiction avec elle-même. L'Ecclésiaste ne nous dit pas ici que celui qui est mort en réalité, même si ce sont ces termes, est plus heureux que celui qui est vivant. Pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste n'est pas en train de comparer la vie avec la mort. Dans ce texte, l'Ecclésiaste est en train de décrire la vie sous le soleil. Il est en train de rendre compte, sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu, de la vie sous le soleil. Il est en train de définir, de décrire la vie sous le soleil, c'est-à-dire la vie où le péché malmène l'homme, la vie où le péché nuise aux rapports sociaux, la vie où le péché prive le monde d'une part de son sens, la vie où le péché prive le monde d'une part de son caractère de bonté, frères et sœurs. En d'autres termes, ce que le prédicateur dit à travers ce verset, c'est que les oppressions, j'explique ce qu'il dit, les oppressions et les injustices sont tellement scandaleuses, douloureuses et révoltantes sous le soleil que celui qui cesse de les voir parce qu'il est mort, parce qu'il est parti, a un avantage sur celui qui continue de les voir. Et par le fait même, celui qui n'est jamais né, qui ne les a jamais vus, a un avantage tant sur celui qui les a déjà vus, mais qui a arrêté de les voir parce qu'il est décédé, ou qui continue de les voir, et bien celui qui les a jamais vus, et bien a un avantage. Autrement dit, ici, il est question d'avantage et non de bonheur, frères et sœurs. En un mot, l'Ecclésiaste, et voici ce qui conclut l'interprétation, l'explication du verset 2, qui donne beaucoup de problèmes aux lecteurs de la Bible. En un mot, l'Ecclésiaste utilise une figure de style qu'on appelle une hyperbole.
frères et sœurs, qui consiste à exagérer les termes, eh bien, pour mieux faire ressortir l'ampleur de la situation qu'il veut nous décrire, qu'il veut nous expliquer, qu'il veut nous présenter, pour mieux faire voir au lecteur l'intensité de la douleur, de l'injustice, de l'oppression qu'on peut observer et vivre sous le soleil. Ecclésiaste, eh bien, semble dire que celui qui est mort est plus heureux que les vivants, mais en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que celui qui arrête de les voir a un avantage sur celui qui continue de les voir, parce que c'est tellement douloureux, frères et sœurs. Ensuite, frères et sœurs, l'Ecclésiaste considère le travail humain, ou du moins le rapport que l'humain entretient avec le travail, pour continuer de nous montrer, eh bien, que la vanité de la vie, que la vie est vaine sous le soleil. Il dit au verset 4, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Notez cela. « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de l'homme, à l'égard de son prochain. » Et il nous dit clairement, « C'est encore là une vanité et la poursuite du vent, frères et sœurs, bien-aimés. » Ce que le sage est en train de nous expliquer ici à travers ce verset 4, c'est que le travail en lui-même est une bonne chose. Le travail relève de l'ordre de la création, frères et sœurs, bien-aimés. Le travail est de l'ordre créationnel. Le travail en soi est une bonne chose, mais souvent, la plupart du temps, sous le soleil, le travail a une motivation égoïste. En d'autres termes, selon l'Ecclésiaste, parlant sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu, au lieu de travailler pour satisfaire des besoins réels, légitimes, normaux, l'être humain sous le soleil a tendance à travailler dans le but, eh bien, d'être reconnu par les autres. L'être humain a tendance à travailler dans le but d'avoir du pouvoir et une situation sociale, eh bien, élevée. Il en résulte, du point de vue de l'Ecclésiaste, la rivalité au travail, dans les rapports sociaux, peut-être même dans la famille ou dans l'église. Il en résulte la compétition, frères et sœurs. Où est-ce que ça péché capable de faire? Il en résulte la concurrence. Le travail est une bonne chose, mais souvent le travail est mal motivé. Souvent, la motivation du travail, eh bien, n'est pas saine. Elle n'est pas sainte, frères et sœurs. Il en résulte la polémique en ce que chacun va toujours essayer de dépasser l'autre. Chacun va toujours essayer de faire mieux que son semblable dans l'espoir d'être meilleur ou d'avoir une meilleure position dans la société, eh bien, par rapport aux autres. Pour l'Ecclésiaste, cela aussi fait partie de la vanité de la vie sous le soleil, frères et sœurs. Cela aussi est dérisoire. Cela aussi est éphémère. Cela aussi est futile. Pourquoi? Parce que toute chose ne procure pas nécessairement une profonde satisfaction. Ces choses pour lesquelles l'homme va laisser, eh bien, ses rapports sociaux se désagréger, eh bien, ces choses n'apportent pas nécessairement la satisfaction attendue. Et l'homme est déçu. C'est en ce sens que c'est vanité, frères et sœurs. Autrement dit, l'homme échoue à trouver une pleine, une authentique, une réelle satisfaction dans la rivalité au travail, dans la polémique au travail, dans la concurrence au travail. L'homme poursuit ses objectifs, mais l'homme ne les atteint jamais, parce que le bonheur n'est pas de ce monde. Et l'Ecclésiaste a parfaitement raison, frères et sœurs, puisque pour Dieu, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme, la valeur d'un jeune, la valeur, eh bien, d'une personne ne se mesure pas d'abord à sa réussite sociale, ni à son pouvoir, ni à son avoir. La valeur d'un homme se mesure à sa relation avec l'éternité, à sa relation avec Dieu et sa parole, frères et sœurs. Au verset 5, l'Ecclésiaste nous dit que rester sans rien faire ou ne pas travailler du tout n'est pas une solution au travail motivé par la jalousie et la rivalité. Parce que c'est un peu compréhensible que l'Ecclésiaste nous dit cela. Si quelqu'un dit, moi, je ne veux pas travailler parce que je veux éviter toute cette rivalité, toute cette compétition, toute cette polémique, je vais rester sans rien faire. L'Ecclésiaste nous dit, l'autre extrême non plus n'est pas une bonne chose. Et c'est aussi une vanité sous le soleil. Il faut éviter d'arrêter de travailler parce qu'on veut, il y a trop de rivalité au travail. L'Ecclésiaste nous dit, non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'inaction ou bien la l'oisiveté, l'inactivité, le fait de ne pas travailler est autodestructeur. En d'autres termes, rester sans rien faire ou ne pas travailler du tout n'est pas une solution au travail motivé par la jalousie. C'est ce que Ecclésiaste veut nous dire quand il dit au verset 5, l'insensé se croise les bras, donc l'inaction, la paresse, l'inactivité, le non-travail, rester sans travailler, et voilà pourquoi il dit, et mange sa propre chair. Eh bien, rester sans travailler quand on n'a pas une bonne raison, c'est toujours nuisible. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, en réalité, c'est nuisible. Je n'aurai pas le temps de vous donner quelques exemples, quelques façons que c'est nuisible, que quand on peut travailler, quand on a du travail ou qu'on peut travailler, on ne travaille pas, c'est toujours autodestructeur. J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais partager avec vous, mais mes propos ne sont pas là en ce moment. Au verset 6, frères et sœurs, mes bien-aimés, chers amis internautes, le prédicateur nous dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec et travail et poursuite du vent. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Suivez-moi bien. L'auteur, l'Ecclésiaste, vient de nous dire que la rivalité au travail est à bannir parce que c'est une vanité sous le soleil, ça ne mène à rien, ça ne permet pas, ça ne procure pas la satisfaction. Et en plus, c'est destructeur, c'est destructrice. Il dit, l'oisiveté est à rejeter, rester sans rien faire. Je viens à peine d'en parler. Et ici, au verset 6, il est en train de nous dire que travailler sans se reposer n'est pas non plus une alternative viable. Que ce soit à l'oisiveté, que ce soit à la rivalité au travail, travailler sans se reposer est aussi à bannir. Très important. Comme les autres choix, travailler sans se reposer ne garantit pas non plus une satisfaction profonde sous le soleil. C'est ce qu'il est en train de dire quand il dit « Mieux vaut une main pleine avec repos. » Il est mieux de se reposer, pas de ne pas travailler du tout, pas de travailler dans l'excès, dans la rivalité, mais plutôt de travailler en se reposant que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Je vous avais dit que poursuite du vent signifie vanité. Le meilleur équilibre est de travailler selon ses besoins. Le meilleur équilibre pour ne pas tomber dans les pièges de travailler dans la rivalité, pour la concurrence, et de ne pas travailler du tout ou de l'excès au travail sans se reposer, le meilleur équilibre pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, pour l'Église de Dieu, c'est de travailler selon ses besoins. C'est de travailler selon ses compétences et ses capacités et de se reposer dans l'assurance qu'on peut compter sur la toute suffisance de Dieu pour prendre soin de nous, de notre famille et de nos proches. L'Ecclésiaste est en train de nous encourager à apprendre à s'arrêter et à se reposer de son travail le moment venu. L'Ecclésiaste est en train, par le verset 6, de nous encourager à travailler pour gagner notre vie, mais en nous disant que souvent, ce que nous faisons, nous gagnons de trop est inutile parce qu'on finit souvent par ne plus pouvoir avoir le temps d'en profiter, d'en jouir ou de jouir du fruit de notre travail. L'Ecclésiaste est en train de nous encourager à travailler sainement, non pas dans la rivalité, non pas en restant assis sans rien faire quand on peut travailler, quand on peut trouver du travail et qu'on a la santé pour travailler. Il est en train de nous dire aussi que l'excès au travail n'a pas sa place non plus parce que ça tournera elle aussi à la vanité. Il est en train de nous dire un peu de repos pour toi, pour moi, pour ma famille, semble être un bon choix parmi les trois autres choix. Un commentateur bien connu, Charles Hodge, a dit à juste titre, « Je préfère me contenter du peu que je possède plutôt que d'acquérir beaucoup et d'avoir toutes les contrariétés qui l'accompagnent, c'est-à-dire qui viennent avec. » Après avoir vu la vanité dans l'oppression, frères et sœurs, après avoir considéré la vanité dans la jalousie, dans l'oisiveté et dans trop d'activité, dans trop de travail, l'Ecclésiaste voit maintenant la vanité dans la solitude au verset 7 à 12. Mais je m'arrêterai au verset 8 pour cet aspect des choses de Dieu. L'Ecclésiaste prend plusieurs exemples pour nous parler de la vanité dans la solitude. J'aurai le temps de vous parler uniquement, comme je l'ai dit, du premier exemple, à savoir, et nous l'avons vu ensemble au verset 8, un homme seul qui travaille beaucoup, 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 c'est ce que l'Ecclésiaste appelle qui travaille sans fin, il ne se contente jamais de ses richesses, tant il y en a, il veut encore en avoir, il accumule des heures supplémentaires, des heures, il fait de l'argent, et pourtant il est seul, nous dit l'Ecclésiaste, pas de fils, pas de frère, il travaille tellement qu'il n'a plus de sommeil, nous dit l'Ecclésiaste. Pourtant, parce qu'il est seul, eh bien, il n'a personne pour faire profiter du fruit de son labeur, du fruit de son travail. Ainsi, frères et sœurs, vous avez lu le verset 8, je vais le résumer. Arrivé à un certain moment de l'existence, de sa vie, cet homme s'arrête et se demande à quoi bon d'avoir autant travaillé. Pourquoi est-ce que j'ai tant travaillé? Et pour qui est-ce que je vais laisser tous mes biens? Verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant, son travail n'a pas de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. C'est lui qui pose la question, c'est cet homme. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de réjouissance? Pas de temps pour lui, pas de temps pour le plaisir, pas de temps pour des moments de talité. Et c'est encore là, dit l'Ecclésiaste, une vanité et une mauvaise chose. Enfin, frères et sœurs, nous allons terminer. Aujourd'hui, ce ne sera pas long. Le Cohélète va considérer un autre aspect de la vie sous le soleil, des rapports sociaux, de la vie sociale, les consistances humaines, la quête de la nouveauté. On fait comprendre à Salomon que la popularité et même les plus grands honneurs qu'un homme ou une femme peut avoir dans ce monde, eh bien, ces choses-là ne sont que vanité et poursuite du vent sur le soleil. Je répète, les constances humaines, la quête de la nouveauté, on fait comprendre à Salomon que la popularité, les plus grands honneurs qu'un homme et une femme peut avoir, peut jouir dans la vie sous le soleil ne sont que vanité et poursuite du vent. Il prend un exemple au verset 15 pour nous expliquer cela. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant. L'enfant suppose la nouveauté, un jeune qui a remplacé un vieux au travail, en gouvernance, à la présidence, à la royauté, au pastorat ou autre. C'est ça que ça veut dire. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourer l'enfant, je vous ai déjà dit quel enfant, qui devait succéder au roi et régner à sa place. Eh bien, entourer l'enfant suppose la joie, suppose le contentement. Tout le monde est content, tout le monde est heureux d'avoir un nouveau qui remplace un ancien. Et le verset 16 nous dit, il n'y avait point de fin à tout ce peuple. Donc, ça veut dire que la première génération qui l'ont accueilli, eh bien, qui l'a accueilli et s'est réjoui, eh bien, il y en a d'autres après cette génération qui défilent à tous ceux à la tête desquels il était, c'est-à-dire l'enfant était. L'enfant suppose la jeunesse, la nouveauté. Et toutefois, ceux qui viendront après, frères et sœurs, ne se réjouiront pas à son sujet. On parlait tout à l'heure de l'inconstance humaine, de la quête de la nouveauté. Il est déjà trop ancien, car c'est là encore là une vanité et la poursuite du vent. Où est Emmanuel Macron, t'es monté président en France Avez-vous vu quand M. Emmanuel Macron a accédé à la présidence française? Vous avez vu l'euphorie qu'il y avait? Et puis, des années plus tard, quand il a commencé à prendre des décisions et qui ont déplu des gens, vous avez dit qu'il a accumulé dans toute l'histoire de la République française le taux d'insatisfaction le plus bas dans toute l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas rien mal, l'homme de fait. C'est comme si nous avons dit, effet nouveauté, à où est en passé. Barack Obama, même chose. Il a fait sa campagne contre la guerre en Irak. Il a promis de rapatrier les troupes. Il a fait la guerre contre les riches, et bien, qui avaient trop d'avantages par rapport aux pauvres. Et tout de suite, George Bush est parti. Et une fois que George Bush fait parti, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Même si Obama a eu un deuxième mandat, ça n'a pas pris du temps pour que l'effet de nouveauté se soit estompé. L'Ecclésiaste nous a avertis de ces choses. Tout est vanité sous le soleil. Les relations sociales, la gouvernance, la direction, le leadership n'est pas épargné par cette vanité qui caractérise les rapports sociaux, la vie sous le soleil. Cette vanité se caractérise, nous venons de le voir, par l'oppression et l'injustice, par les rivalités, la jalousie, la polémique, la concurrence au travail, et un peu partout. Où est-ce qu'il y a des hommes? Mais l'Ecclésiaste nous dit, ça se caractérise aussi par la solitude, le cas de celui qui travaille beaucoup, 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 mais qui n'a personne pour jouir du fruit de son travail, qui va lui hériter ses biens. Et l'Ecclésiaste vient, en dernier lieu, au chapitre 4, de nous montrer que la vie est vaine sous le soleil, particulièrement dans les relations sociales, dans les rapports sociaux, à cause que l'être humain est constamment en quête de nouveautés. Frères et sœurs bien-aimés, que faire alors? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Avez-vous remarqué que le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans le chapitre 4? À part, bien entendu, au verset 17, bien entendu, lorsqu'il dira « Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font. » En fait, au verset 10, au verset 17, le nom de Dieu est mentionné, mais depuis le verset 1er jusqu'au verset 16, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais écoutez bien, pour ceux qui savent lire la Bible attentivement, ce n'est pas parce que dans un passage que le nom de Dieu n'est pas mentionné que Dieu est absent. Je répète, pour ceux qui savent lire la Bible attentivement, ce n'est pas parce que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans un passage, dans un verset, que Dieu n'est pas là-dedans. Dès que tu creuses à la lumière du Saint-Esprit de Dieu, ou abjoindre Dieu dans le passage, là, frères et sœurs, bien-aimés. Que faire devant la vanité de la vie sous le soleil, particulièrement dans les rapports sociaux? Que faire face aux rivalités, à la concurrence, à l'injustice, à l'oppression, à la solitude? Que faire par rapport à cette quête constante de nouveauté? Que faire? Comment y faire face? Premièrement, voici la solution. Premièrement, reconnaître nos limites et nous en remettre à la justice de Dieu. Voici comment, en tant que chrétien, en tant qu'église, on est appelé à faire face à la vanité. L'idée, ce n'est pas de ne pas travailler. Ce n'est pas de ne pas avoir des amis. L'idée, ce n'est pas de pas avoir de famille, de s'isoler. Loin de là. L'idée, ce n'est pas de dire, je n'ai plus envie de vivre. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Ce qu'il faut, c'est que, un, il faut reconnaître nos limites et s'en remettre à la justice de Dieu. Cela consiste à accepter que la vie sur cette terre est faite de vanité. Il faut l'accepter. On ne peut pas la changer. C'est ça qui est ça, comme je l'avais dit la fois passée. Depuis l'intrusion du péché en Éden, c'est ça qui est ça. La vie est faite d'insatisfaction et elle sera toujours faite d'insatisfaction, d'oppression et d'injustice, de vanité, jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre divin sauveur. Il en a toujours été ainsi sous le soleil, il en sera de même jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. D'où la nécessité de toujours s'en remettre à Dieu, le juste juge, en lui faisant confiance pour nous faire justice dans le présent et dans l'avenir. La justice de Dieu peut se faire tant dans le présent que dans l'avenir. Il convient de remettre à notre Dieu nos sentiments dans la prière, dans la méditation, dans le service, dans la louange, dans la gloire de Dieu. face à la vanité de la vie dans les rapports sociaux, dans les relations sociales, il convient que l'Église, que les familles de Dieu, que les jeunes, les aînés, les hommes, les femmes remettent leurs émotions, leurs circonstances à Dieu dans la prière. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 7 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il vous élève au temps convenable, inclut vous faire justice au temps convenable. Il vous élève au temps convenable, inclut eh bien, vous libérer de l'oppression, vous délivrer de toute situation d'oppression eh bien, sous le soleil et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, c'est-à-dire de toutes vos injustices subies, de toutes les oppressions subies, de toutes les rivalités, les concurrences subies, car lui-même prendra soin de vous. » Ésaïe 66, le verset 2, nous dit la même chose, à peu près en d'autres mots. « Toutes ces choses, c'est Dieu qui parle, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Et Dieu de conclure en disant, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, incluant souffre d'oppression, de rivalité, de polémique, de concurrence, d'injustice, et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole, comme vous le faites si bien déjà à l'oratoire. » À travers cette déclaration, frères et sœurs, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, est venu nous assurer, assurer l'Église, assurer les familles, ses enfants, qu'au-delà de la vanité de la vie, qu'au-delà de nos infirmités, qu'au-delà de nos limites, qu'au-delà de nos impossibilités, lui-même peut réaliser les possibles pour nous secourir, nous faire justice dans nos moments d'oppression, dans nos moments de détresse. Il nous garantit qu'il a le pouvoir, la faculté, l'intelligence, la capacité, la sagesse de prendre l'histoire de chacun de ses enfants, de chaque famille qu'il aime à cœur et de traiter chacun de nos dossiers au milieu de la vanité de la vie et cela au meilleur de nos intérêts, frères et sœurs. Deuxième solution, l'oratoire, ouvrez les oreilles. Deuxième solution face à la vanité de la vie, dans les rivalités, dans les polémiques, dans l'injustice, dans l'oppression. Deuxième solution, cherchons notre satisfaction en Dieu. Cherchons notre satisfaction en Dieu. La première solution, c'était de reconnaître nos limites et de nous en remettre à la justice de Dieu. Mais la deuxième solution, la deuxième attitude à garder en tant que chrétien face à ces choses, c'est de chercher notre satisfaction en Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux celui qui en fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comment seront-ils rassasiés, peuple du Seigneur? Ésaïe 55, verset 1 nous répond. Ils seront rassasiés, voici de quelle manière, vous tous qui avez soif, soif de justice, soif de libération, soif de liberté, soif de paix, soif de repos, soif de tranquillité, vous tous qui avez soif, soif de vie éternelle également, vous venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et comment peut-on venir aux eaux et acheter sans argent, sans rien payer, frères et sœurs? Personne ne le savait jusqu'au jour où Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cela suppose quoi? La présence du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de justice, l'Esprit de liberté, l'Esprit de consolation, l'Esprit de libération, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de sainteté. Et l'apôtre Jean qui nous explique cela, il dit cela en parlant de Jésus, notre Sauveur, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si l'Esprit n'était pas encore quand Jésus a fait cette déclaration, pour maintenant, au moment où je vous parle, l'Esprit est déjà, et cet Esprit est en vous, cet Esprit est en moi, cet Esprit est au milieu de l'Église collectivement et dans le cœur. Cet Esprit a établi son habitation dans la vie, dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que cet Esprit est un Esprit de justice, un Esprit de paix, un Esprit de consolation, de satisfaction, de joie et de pardon, un Esprit de bonheur. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes opprimé, Peut-être que ce n'est pas vous qui êtes opprimé, mais quand vous regardez les oppressions à la télévision, dans les nouvelles, tu dis, Seigneur, par solidarité humaine, avec les gens qui souffrent autour de vous, dans vos familles peut-être. Et bien, quand vous regardez ces choses, dites-vous, Seigneur, heureusement, toi-même, tu m'as donné ta justice. Heureusement, tu as fait de moi porteur de ta justice. Heureusement que tu as fait de moi porteuse de ta justice. Je puis me consoler sur ta justice. Quand les hommes tardent ou refusent de me faire justice, je peux compter sur votre justice, car tu as fait résider ta justice en moi. Et non seulement tu peux compter sur cette justice, mais tu peux répandre cette justice autour de vous, dans votre famille, au travail, dans votre entourage. Tu peux parsemer, tu peux répandre cette justice, la lumière de cette justice, en tant que celle de la terre et lumière du monde autour de toi. Devant la vanité de la vie sous le soleil, il est important de chercher notre justice et notre satisfaction en Dieu, car c'est Dieu qui nous a fait. Dieu est le seul capable de combler véritablement le vide existentiel que l'homme peut avoir, parce que Dieu sait comment nous sommes faits. Il sait comment l'homme est fait. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait ce dont nous avons besoin, ce dont l'homme a besoin pour sa pleine et entière satisfaction. L'homme aura beau chercher la justice, l'homme aura beau chercher la satisfaction dans la création, dans les créatures, dans l'oisiveté, dans le travail sans repos, dans le repos même, dans les biens de consommation, dans les honneurs et la popularité, l'homme ne le trouvera pas. L'homme ne trouvera pas ce bonheur-là. L'homme ne trouvera pas la satisfaction dans ces choses. Au contraire, l'homme ira de frustration en frustration. L'homme ira de déception en déception. L'homme ira de mécontentement en mécontentement en cherchant, eh bien, la satisfaction là où elle n'est pas et où là elle ne peut pas être, par la justice et la satisfaction véritable, la libération, la paix, le bonheur, la joie n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi le prophète a dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Sachant cela, le psalmiste dit à Dieu dans le psaume 17, le verset 15, « Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. » Cela inclut la satisfaction, même si ce n'est pas absolu. Cela inclut le bonheur, même si ce n'est pas absolu, car l'absolu est dans l'éternité de Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, les promesses de Dieu sont à la fois pour le présent, pour ici, pour maintenant et pour l'au-delà, pour l'éternité, pour la vie au-dessus du soleil. Il y aura toujours un avant-goût de satisfaction, de bonheur, de paix, de libération, de repos pour ceux qui se confient en Dieu. Mais l'étendue, la plus grande chose, l'étendue de cette satisfaction se manifestera, comme je l'ai dit depuis que j'ai commencé la série, ultimement dans l'éternité, dans la gloire à venir. Le jour viendra, peuple du Seigneur, où ceux qui ont faim et soif de la justice, de satisfaction, n'auront plus jamais faim ni soif, non seulement de la justice et de la satisfaction, mais de rien du tout, car Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, lui qui est au milieu du trône du palais éternel, fera paître ses enfants. Il les conduira aux sources de la vie, selon Apocalypse, chapitre 7, les versets 16 à 17. Cette réalité à la fois présente et future de la présence de Jésus-Christ est une source de satisfaction pour vous et moi. C'est une source de joie. C'est suffisant pour que nous ne soyons plus pessimistes, plus que nous soyons plus sceptiques, mais pour que nous ayons envie de vivre, pour que nous aimons la vie, pour que nous nous accrochions à Dieu, à sa grâce, à sa parole et à la prière, et pour nous aider à attendre dans l'espérance que Jésus revienne pour mettre fin à la vanité de la vie, car il a déjà travaillé pour le faire. Je vous ai dit qu'il a vécu la vanité pour vaincre la vanité. Je répète, Jésus a vécu la vanité pour vaincre la vanité. Je répète, Jésus a vécu, il a accepté, il est au-dessus de la vanité. Il n'a rien à voir avec la vanité. Mais par amour pour l'homme, il a accepté d'expérimenter la vanité, la futilité de la vie. Il a accepté de le faire pour y mettre fin. Il viendra mettre fin, il commence à mettre fin à la vanité pour ses enfants, mais il viendra achever son œuvre au jour, eh bien, de son retour. Troisième et dernier élément, je termine là. Comptez sur le jugement de Dieu. Pas oublié, non? Premier bagage là, c'est accepter la réalité pour ne pas changer. Remettre-vous à bon Dieu. Deuxième bagage là, c'est rechercher votre satisfaction en Dieu. Troisième bagala, c'est compter sur le jugement de Dieu. Je vais vous dire dans quelques versets seulement. Tout le monde a fait oppression, yo. Tout le monde a fait injustice, yo. Tout le monde a bien mené en fait mal, yo. Eh bien, joue yo compter. Yo pas éternel. Justice, bon Dieu, a, y a pour le manifester. Li comment se manifester depuis qu'on y a, même j'ai même saut tout à l'heure là, eh bien, la satisfaction commence à être déjà une réalité. Et elle sera une pleine réalité dans le monde à venir. C'est la même chose pour le jugement de Dieu. Ou pas au paquet de monde qui t'a bien mené, que ce soit dans un grand pays ou bien dans un petit pays, ou pas tout le monde qui est en pile dans la prison, pas tout le monde qui est en prison, ou pas en pile dans le monde qui est en prison, des gens qui sont dans Hollywood, des gens qui sont dans le gouvernement, qui prend l'argent, ou qu'on est, qui t'a foncé le bagaille, des biens mal acquis. En pile dans le monde qui est défilé devant le tribunal, autant qu'il n'y a pas contre la justice, il y a un cabane, il n'y a pas arrivé. Mais autant bon paquet qui traîne de la vie à la justice, qui humilie devant madame, devant petit, devant la société. Et faut-il prendre en réfléchir pour eux. Des fois, ils ont toujours un parti dans sa vie de jeunes sous terre. Il n'y a pas de effectivement, mourir. De quoi pour l'autre monde t'a dit, bon Dieu, pas juste vrai. Parce que même on a mourir, il va gagner un privé. Ce n'est pas vrai. Si c'est pas vrai, il va gagner un privé sous terre. Il n'est pas capable, il n'est pas courir, il n'est pas caché. Je répète, les cas où il va cacher. Justice, mon Dieu, à n'importe côté, il la joigne. Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je vais développer. Deuxième bagaille qui vous faut compter sur justice, mon Dieu. Romains 2, verset 16. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Acte 17, verset 31. Parce qu'il a, en parlant de Dieu, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On va développer. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je résume. La vie est plate. La vie est éphémère. La vie est dérisoire. La vie est futile. La vie est vanité. La vie est sans dessus-dessous. Oui, nous le reconnaissons. Les rivalités nous accablent, les polémiques, les concurrences dans les relations sociales, les injustices, les dominations, les oppressions nous accablent, nous révoltent. C'est vrai, mais tout n'est pas perdu. Il n'y a aucune raison à cause de cela pour lancer la serviette. Non. Cherchons de préférence notre satisfaction en Dieu. Deuxièmement, comme solution, et premièrement comme solution, reconnaissons-le et remettons-nous à Dieu. La deuxième chose, recherchons notre satisfaction en Dieu. Et le troisième élément de solution, de compter sur la justice infaillible de Dieu, sur le jugement de Dieu, le jugement infaillible de Dieu, soit dans ce monde ou au grand trône blanc. Mais Dieu fera justice quand même. Et cela pour nous, comme ça doit être une source de satisfaction, une source de consolation, parce que ça alimente notre espérance. Nous attendons deux choses au retour de Jésus-Christ. Le jugement des insensés, des mécréants, des injustes, des méchants, pas de gaieté de cœur que nous l'attendons, pas de gaieté de cœur, au contraire. Si tout le monde était à sauver, moi, avant, on était content. Mais en même temps, il y en a que nous savons très bien qui résisteront jusqu'au retour de Jésus. Et bien alors, c'est aussi une espérance pour nous et moi, pour vous et moi, de savoir que leur injustice, leur oppression ne resteront pas impunies. Car celui qui a fait la promesse est vrai. Il est certain, il le fera en temps et lieu. Sur ces paroles, que le Seigneur nous fasse la grâce d'être des battants, de tenir ferme, de rester debout, de ne pas nous décourager devant la vanité de la vie. Avançons. Pas parce que nous sommes capables d'avancer par nous-mêmes, en comptant sur Dieu, en comptant sur les bras de Dieu, en comptant sur l'amour de Dieu. Mabdou Kishore, pendant ma terminée, regardez bien. Dieu n'a pas promis un ciel toujours bleu, des fleurs le long du chemin de nos vies. Dieu n'a pas promis le soleil sans pluie. Dieu n'a pas promis de joie sans peine, de paix sans douleur. Mais Dieu a promis de la force pour la journée, le repos après le travail, de la lumière pour la route, sa grâce dans les épreuves, de l'aide d'en haut, une sympathie sans faille, un amour immortel, d'après Annie Johnson Flint. C'est ce que Dieu a promis, frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Amen.